Une émission réalisée avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service Général de l'Audiovisuel et des Médias.
This contest is scheduled for one fall with a 20-minute time limit. Introducing first, from Italy, weighing 239 pounds, Salvatore Bellomo.
Rectangle, le podcast.
Mais non, et ça fait un an que je suis là, hein, tout ça, un an quelque chose. Et là, il y a Portland. Mais pour être à Portland, c'est les États-Unis, il faut des visas. Mais quand j'étais à Vancouver, j'étais pas champion, on allait lutter à Seattle, Washington. Et moi, je refusais. Parce que, il dit, voilà, un visa. Il me dit, passe, tu verras bien. Non, 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 parce que si on se fait attraper, on se fait virer pendant 7 ans. Je dis, moi, je n'irai pas lutter à Seattle. Mais quand je suis champion, ils ont besoin. C'est drôle, les papiers sont arrivés 2 semaines après. Hein. Mais pendant un an, ils ne savaient pas les avoir. Hein. Alors, je dis, non, je n'y vais pas. Oui, mais on a besoin de toi, les gens. Ben, je dis, ben, alors, là, bon, ça commence, j'ai les papiers pour aller aux États-Unis. Et le promoteur de Portland et Vancouver sont associés 50-50. Alors, ce qu'ils faisaient, les gens de Vancouver, des fois, allaient à Portland, ceux de Portland venaient à Vancouver. Donc, ils chargeaient les hommes. Et là, il est temps de passer aux États-Unis, alors, dans un sens. Hein, je...
20-minute time limit. Introducing first, from Italy, weighing 239 pounds, Salvatore Bellomo. His opponent is from the Double Cross Ranch, weighing 260 pounds, introducing Terry Funk.
Your tough customers are looking at like this. Gorilla Monsoon here at ringside with Jesse the Body Ventura.
Donc je fais une année là. Là c'était bien. C'était un petit territoire parce que dans le temps en Amérique il y avait des territoires. Il y avait Portland, le Texas, la Louisiane. Chaque État avait un petit promoteur et vous gagnez un peu 300-400 dollars par semaine. Hein. Vous pouvez payer vos frais, bien entendu, et vous payez l'hôtel et tout, on s'en sortait. Hein? Alors, des fois, il y avait des gros shows, donc, mais après, ça, maintenant, c'est parti, tout ça. Alors, de là, on partait, voilà, j'étais à Portland, prochaine étape, Californie. Et c'est ce que j'ai fait après, alors, donc je suis à Portland, ça se passe bien, donc j'arrive, je suis là, à vedette à Vancouver, mais à Portland, c'est plus la même chose, puisque ils ont besoin d'un gentil pour se faire battre pour les grands méchants. C'est la différence, mais j'ai besoin de moi. Et là, il y avait un promoteur, c'était deux frères qui faisaient Portland, et l'autre faisait toutes les petites villes. Et on rigolait parce que lui, il était c'est typique américain, je ne sais pas l'expliquer, je ris quand je pense à cet homme, parce qu'il était... Il faisait, non, moi, il me faut 12 hommes, pas 13, je n'avais pas besoin de payer pour un arbitre. Parce qu'il ne voulait pas payer pour un arbitre, mais il payait, mais je vais vous dire comment il faisait. Alors il faisait, ok, toi, tu fais le premier match avec lui. Puis tu as fini, et toi, tu fais l'arbitre pour un match, ok? Bon, toi, tu fais le reste de la soirée, tu fais l'arbitre. Ça va. Alors, moi je ne comprenais pas tous ces systèmes, mais moi... Puis comme je dis, le catch, ça a toujours été mon amour. Donc, tous ces trucs-là, au départ, ça me choquait, mais ça me... Alors, il fait, mais le bon, ouais, tu fais le premier match, ouais, ok. Après, tu prends le verreuse, tu fais l'arbitre. Mais là, moi-même, je dis, mais je ne suis pas venu pour faire l'arbitre, moi, ici. Mais, ok, c'était un peu le système comme ça, là-bas, dans, hein. Il y a ce truc-là, je réalise qu'après, quelquefois, bah, à la fin de la soirée, il dit, ok, ton match, 50 dollars, ouais, t'as fait l'arbitre, allez, 30 dollars. Oui, c'est pas mal, ça, dans ils me payent pour l'arbitre, plus faire le match, mais il y en a un qui n'aimait pas faire l'arbitre, hein, c'était leur truc. Puis je réalise, en faisant l'arbitre, je suis avec toutes les grandes stars, puisque je suis l'arbitre. Roddy Piper, Brooks, toutes ces grottes, ça, je suis là, je suis en train d'apprendre ce que mes chants font, et ce que je dis à tous mes jeunes. Quand je vous demande de faire l'arbitre, il y en a un, oh, c'est une meilleure école que n'importe, parce que tu vois ce qu'ils doivent faire. Hein. Je suis payé plus. Je vois, je suis au milieu du ring avec tout le monde, parce que je fais tous les matchs. Et je m'amuse, hein. Et donc, dans un sens, j'ai pris ça à la bande. Alors, quand il... je levais la main, il dit, ben, toi, t'attends bien ça, pour que je ne t'aime pas au départ, hein. Et là, Portland, ça a été vraiment une bonne aventure, les gens très braves.
On est prêts. Hein?
Moi, j'arbitre le match de Jason et Alex. Alex Legrand et Axel et... Ah oui, je fais les deux.
Ça va ? Comme ça, t'es dans le ring, comme ça, t'es...
Les deux ? Et oui, moi, j'enchaîne.
Okay. Hein. Ah, tu enchaînes
après,
ça va.
Après, faut pas oublier que je...
Ben, on va le mettre... Ici, je vais te mettre peut-être Jérôme, là, ou Pierre. Hein. Pierre qui est là. Ouais. Et... Il y aura le main event après.
À la limite, est-ce que je pourrais faire un échange ? Parce que moi, j'ai un match juste après, moi. Donc, il faudrait vite que je me change et que...
Ok, alors, écoute, Jérôme, tu fais celui-là, toi. Va faire le
Axel.
Premier.
Moi, je veux bien faire...
Axel est plus ici.
Ah non, t'es ici, dans le match, toi. Ça, c'est le six-man tag.
Le six-man tag,
c'est là où... Ouais.
Donc, j'arrive de Vancouver à Seattle, parce que c'est Portland lutte à Seattle. De Seattle, je vais aller à Portland. Et je dis à Johnny Mantell, je cherche une chambre. Ben, qui dit à le bomber, c'est un gros avion, un mec qui avait été dans l'armée, son avion à lui-même, qui conduisait, lui a enlevé les moteurs, il l'a racheté, et il a mis un hôtel juste en dessous, ça s'appelait le Bomber. Et grâce à ça, je me rappelle de l'hôtel, parce que j'avais dit, un avion, j'ai dit, hôtel, Bomber, plane, c'était une autre histoire aussi, ça. Et j'ai dit, Johnny, est-ce que tu peux réserver une chambre, je viens à telle date, tout ça, ouais, t'as pas de problème. Le jour que j'arrive à Portland, lui, il est dans une ville en train de lutter, il n'y a personne, à l'hôtel, il n'y a pas de chambre. Bah, je prends une chambre autre part, le lendemain, je vais le trouver, je dis, Johnny, qui dit qu'il n'y a pas de chambre? Alors comment ? Non, il n'y a pas de chambre pendant 3 semaines. Mais ne tracasse pas, qui dit. Moi, j'ai du lit dans ma chambre, ne tracasse pas. Rien. Donc, c'est mon premier Américain qui me reçoit. Mais ils ont une autre vie, hein, ils vivent différemment un peu. Il y avait des choses que je ne dirais pas ici, mais que je voyais qu'ils faisaient, que je ne comprenais pas. Hein, c'était... Mais très aimable, on a passé des moments fantastiques. Et je vais aller le revoir après 30, 40 ans, je vais aller le revoir. Tu sais, cette année, je vais au Texas le voir. Et de là, on nous envoie à San Francisco, donc je fais le Court Palace, San Francisco, c'est comme le Madison de ce côté-là. Et je reviens en Allemagne, je fais quelques tournois. Je revenais souvent en Allemagne pour revoir ma famille en général. Là, c'était une paye, pop, je repartais. Et de là, maintenant, je dis, ben, faut faire quoi ? Ben, on va essayer la Californie. Et c'est là que j'ai rencontré la première fois au Kogan. T'as encore un truc. J'ai fini Portland, je vais en Allemagne, je dois aller à Californie. Wow, qu'est-ce que je dois faire ? Bon, ça veut dire que j'étais en France, j'étais champion, parce que j'allais en France aussi, hein. Et en France, j'étais champion du monde. Et de là, ils cherchaient un acteur pour faire la doublure de Adaldo.
Toi aussi les moustaches, hein ? J'avais dit que j'aime pas les moustaches. Tu les coupes. Allez, plus vite, mes enfants, ça c'est la classe. Vous allez être heureux quand vous sortirez d'ici. Bien, Pépé.
Oui, mon maître.
Bon, je te laisse tomber pour Guatelier, hein.
Vas-y, Aldo, de faire la doublure d'Aldo. Simplement, quand j'ai été au studio, je suis beaucoup plus grand qu'Aldo. Il dit, mais c'est pas grave, on va te prendre pour lutter contre Aldo. J'ai trouvé un double, hein, il avait un masque dans une main. Il met un masque, hein, dans une main. Et là, j'ai dit, mais merde, là, il me payait... j'ai pris un paquet, là. Alors, le cinéma était... Je fais quoi ? Alors, j'appelle la Californie, je ne saurais pas venir à cause du film. Ben, je pars plus tard à la Californie, alors. Donc, je fais le film, tout ça. Et là, je pars en Californie. Et là, en Californie, je n'oublierai jamais, j'arrive, je trouve une chambre où il faut, hein, et j'arrive au parking de Sport Arena, hein, c'était à Grand Avenue, je n'oublierai jamais. Et là, j'ai un parking et je vois 3 mecs qui marchent, et puis je vois un gros blond, là, comme je dis, c'est Hogan qui arrive. Je rentre dans la Sport Arena, il y a Hulk Hogan avec ses 2 mecs, il y a Sylvester Stallone, et il y a le producteur pour le film Rocky. Donc j'ai été là quand ils répétaient avec Rocky, parce que Stallone, vous voyez, vous avez peur, hein, il est comme ça. Hein. Quand on voit vraiment, moi je reste en Californie pendant un an et demi. Mais là, ça devenait très dur, parce que le promoteur, il faisait une télévision. Et la télévision, c'était tous les samedis. Il faisait une télévision pour les Porto Rico. Donc lui, ça l'intéressait qu'il y ait des hommes là toutes les semaines, mais il ne cherchait pas des villes. Mais alors il faisait le vendredi pour nous donner un peu de travail, mais il n'y avait pas du monde. Soit il nous payait à la semaine, mais... Et là, il y a un promoteur à San Francisco qui commence à faire le lundi, mardi et mercredi, parce qu'il savait qu'à Los Angeles, on faisait ça. Et il me dit, pourquoi tu ne viendrais pas ? Mais moi, j'avais des papiers de travail. Et celui de Californie, il les avait. Donc je ne pouvais pas me faire... Elle dit, écoute, je ne peux pas. Et alors, ça devient grave parce que le promoteur, il payait moins en moins. Mais Jean Lebel, soit. Je parque ma voiture un soir à l'hôtel. Je reviens le lendemain matin, la voiture est partie. Il y avait mal parqué, soi-disant. Il a mis devant un truc, là. Il me faut $300 pour sortir ma voiture. Ben, mais comment je fais? Je gagne autant. Parce que moi, j'ai dit, si je peux payer à manger, je peux me payer une chambre à dormir. Et faire du catch, c'était ce qui se comptait. C'était pas que je voulais mettre de l'argent ou tout ça de côté. C'était, on faisait pas des millions, hein. C'était, je faisais ce que j'aimais bien. Et je dis, merde, je dis au promoteur, j'ai ma voiture, le gars, ouais, qui dit, bah, tire trop plat, tout ça. Ben, j'appelle l'autre à San Francisco, je dis, écoute, lundi, mardi, mercredi, je viens. Là, je vais prendre 400 et des euros, des dollars. Hein. Et là, c'est un peu litige parce que celui de Californie, lui, de Los Angeles, lui, avait besoin des hommes. Il savait que j'allais de l'autre côté, mais il avait besoin d'hommes. Il ne voulait pas me virer parce qu'il avait besoin de moi. Moi, j'ai dit, mais je ne le fais pas pour t'emmerder, j'ai besoin parce que je dois payer mes factures. Donc, c'était un peu ça. Et là, Peter Mavia arrive. Que Peter Mavia était venu en Europe avec Vladimir, les catcheurs français. Hein, Peter Mavia, qui est le grand-père du rock. Et lui, il arrive à Los Angeles. Et là, on passe 6 mois ensemble. Là, mec, c'était un classique, je veux dire. On faisait Los Angeles, San Francisco, San Francisco, Los Angeles, avec 25 bières et une bouteille de Crown Royal. Hein. On voyageait beaucoup en voiture. Hein. Et là, il me dit, ça m'a tort, il dit, moi, j'ai Hawaï, j'ai un petit territoire, hein, est-ce que ça t'intéresserait? Quand il dit Hawaï, moi, allez. Il dit, écoute, j'ai fait un show la semaine après, je vais demander à Jean de te faire venir, tout ça. Tout de suite. Et là, à Los Angeles, ça marche plus tellement bien. Tout ça, et l'autre, il me dit, viens à Hawaï. Bah oui, Hawaï, là, j'ai resté un an et quelque chose, j'ai resté à Hawaï. Mais là, c'était la misère, ça ne faut pas vous dire. C'était $35 par semaine. Et là, je commence à me décourager. Hein, j'ai presque 30 ans, je ne gagne pas de l'argent dans le catch. Là, j'arrive où ce que je voulais. La seule chose que je voulais, c'était le Madison Square Garden. Et là, je passe l'année là, mais ça ne se passe pas. J'ai fait des trucs que je peux le dire discrètement, mais j'allais dans les magasins parce que j'avais pas d'argent. J'ouvrais un fromage, je le mangeais, puis je laissais la moitié parce que j'avais pas pour pas payer. C'est arrivé à ce point-là quand même parce que c'était de la survie. Mais comme j'ai dit, ma famille a toujours été derrière moi quand j'avais besoin. Et quand j'avais besoin d'argent, ils me l'envoyaient parce que quand j'en gagnais, je l'envoyais. Donc c'était un peu. Ma mère était derrière moi, tout ça. Hein. Et je me rappellerai, je vais. Trouver Peter Mavia, mais lui il est très malade à ce moment-là, il a le cancer là, ça commence à aller mal. Et je suis à Hawaï, il me reste, je ne sais plus combien il me reste d'argent, et j'avais acheté un poulet, et j'ai gardé les ailes de poulet, le cou, tu sais, dans le temps, vous voyez, le poulet, il y avait le cou et le truc à l'intérieur. Et quand j'avais acheté le poulet, qu'on avait récupéré avec mon copain, j'avais gardé tout ça. J'ai dit, tu vas faire avec tout ça, tu ne casses pas, on verra bien. Là, je prends les couches de poulet, le cou de poulet, tout ça, les ailes, et je fais une soupe. J'ai 30 cents, je ne sais pas combien il me reste, même pas un dollar, là, pour acheter du pois, des pois et carottes, pour mettre dans la soupe, et avec les ailes du frigo. Donc, tout le week-end, j'ai plus d'argent, là. J'attends le lundi pour avoir de l'argent. Hein. Et j'ai dit à Peter, il est temps. Un promoteur coréen qui vient. Oh, promoteur coréen. Ouais, il dit, voilà, vous voulez vous amener en Corée pendant 2 semaines, $2000 par semaine. Ting, déjà, c'est l'argent que je donne pour sortir, hein, parce que Hawaï, c'est beau, mais si t'es bloqué là, t'as pas d'argent, tu sors plus. Hein. Oh, on est en Corée. Oh, Corée du Sud. Promoteur, il vient, il nous parle avec tout ça. Peter, il dit, écoute, moi, il est malade. Le garçon, il est à l'hôpital, il ne peut plus sortir. Il dit, écoute, tu vas avec ma femme, avec Madame Mivia, la grand-mère du rock, et t'occupes, elle fait les cartes, tout ça. Et, ben oui, j'étais là, il avait confiance en moi. Et on part en Corée. À Madame Mivia, je dis, écoute, je vais en Corée, j'ai la chance d'avoir de l'argent pour rentrer. Il faut que je parte après, vous comprenez? Oui, vous comprenez. Il a un an, sans... Elle dit, je te comprends. Je dis, mais est-ce que tu peux, vous pouvez me faire une faveur? C'est quoi? Appelez Vince McMahon. Voilà. Demandez si, en partant d'ici, je m'arrête à New York, je fais un Madison Square Garden, et puis j'ai fait ça. Et là, j'arrête le catch, hein, j'en ai marre, j'ai pas mal. Il est temps que je fasse une famille ou quoi, là.
At Madison Square Garden, the 33rd Intercity Golden Gloves, with top amateurs of New York and Chicago mixing it up. Lightweights Brian O'Shea in the lightweight.
Elle dit oui, pourquoi pas. Et elle appelle Pat Patterson devant moi. Elle dit, écoute Pat, il y a ce garçon ici, et voilà, on doit aller en Corée, il va s'occuper. Il s'est occupé avec nous pendant un an, il nous a aidé beaucoup, et puis Pierre est très gravement malade. Et après, il va en Corée, qui dit, et on va en Corée, quand il revient, il veut rentrer, parce que. Hein, et il est possible que tu demandes à Vince qui fait un match préliminaire, hein, c'est pas. Et j'entends Pat qui me fait, qui parle avec lui, puis il dit, ben, il parle français, ben, il parle anglais à ce moment-là, mais lui, il est canadien-français. Hein. Il dit, écoute, M. Villa vient de me raconter que tu as vraiment beaucoup aidé ces gens-là, et moi, je suis très proche d'eux, qui dit, je ne peux rien te promettre, mais ce que je fais, envoie les photos, mais moi, je les mettrai en haut. Ça veut dire, parce qu'il se remet des photos tous les jours. Hein. Là, il prend les photos, il les met en haut. Mais de ce temps-là, on dit, est à la bonne place au bon moment dans la vie. Il y a Bruno Sammartino qui est là depuis 20 ans, qui est l'Italien qui a fait la grosse catch américaine bien là-bas. Et il était disputé avec Vince, et il revient avec son fils. Mais il y a des problèmes, parce que ce qui s'est passé, Bruno avait lutté tant d'années, il n'avait pas été payé ses droits d'auteur des photos, des trucs et tout ça, et il attaque, parce qu'il s'est disputé, il attaque Vince pour les droits. Mais Vince, il dit, écoute, je te donne autant de millions, mais tu viens travailler pour moi et t'amènes ton fils. Bon, ils arrangent tout ça. À la minute, ça ne s'arrange pas. Pomp, l'Italien de Belgique qui arrive avec ses photos. Alors, il me dit, fou quand, toi, je prends l'autre Italien. Donc, je suis arrivé à la bonne place au bon moment. Et là, donc, pas la personne. Mais moi, je vais là pour une fois. Hein, c'est mon idée, c'est pas de... Alors maintenant, je suis excité. Là, bon, je vais en Corée. J'ai de l'argent, je vais avoir de l'argent pour partir. Donc la Corée, c'est Hawaï, Tokyo, Corée. Bon, on part en Corée. Mais en Corée, on va travailler pour un promoteur contre un vieux promoteur qui est là depuis 20 ans. Donc je suis en Corée, on va partir en Corée. Moi, je suis italien, passeport italien à ce temps-là. Je vais à l'ambassade italienne, l'ambassade coréenne aussi. Je vais en Corée. Pas besoin de visa, vous. Pourquoi? Vous êtes italien. L'Italie et la Corée ont une convention de visa. Mais les Américains, pas d'avoir un visa. Pas en Corée. On lutte. La Corée du Sud, qui est formidable. Mais il y a un catcheur qui est dedans, qui est le champion, il est dans la mafia. Il a la connexion là-dedans. Mais ça, c'est pas. Heureusement qu'il a ça, lui. Bon, on fait notre tournée, tout ça. Mais moi, je dois partir le samedi, parce qu'à New York, il faut la télévision le mardi. Et comme le jour de décalage, je dois partir le samedi pour arriver le lundi, pour être le mardi sûr à la télévision. Mais moi, je dois lutter le main event ce jour-là, c'est moi le championnat. Mais comme je dois partir, on met le Rock, ça veut dire le papa du Rock, Rocky Johnson. Mais moi, je m'en vais. Hop, je vais à l'aéroport, parce que je pars le samedi. Et moi et Madame Mevia, on part, parce que nous, on rentre plus tôt. Et eux, ils viennent le lendemain. Mais je dis à Madame Mevia, je sais pas, il y a quelque chose qui me tracasse ici. Ouais, je ne tracasse pas. Passe la frontière, elle passe, elle. Je vois le mec qui me regarde, il fait You wrestler? Yeah. Sur le côté, il y a des lignes qui passent, mais sur le côté. Il y a le passeport, tout ça, hop. Deux policiers qui arrivent. Vous pouvez pas passer. Ah pourquoi? Il y a une amende à payer. Ah, je la paye. Non, il faut aller aux immigrations lundi matin et avoir un choix à faire. Ben, j'ai dit, mais pourquoi? Ben, soit, je ne comprends pas bien l'anglais. Les Coréens parlent très mal l'anglais aussi. Parce que je ne voulais jamais. Je dis à Mme Mévier, je dis, mais je fais quoi? Ben, ça va aller, ça va. Mais elle part. Hein. Et moi, je reste là. Hein. Et je dis, mais, non. Et les policiers me prennent gentiment. Allez, on peut me mettre juste au milieu de l'aéroport, là. Au milieu de l'aéroport de Corée, Sud-Corée. Là. Je regarde, je dis, mais qu'est-ce que je fous ici? Mais à chaque fois que j'étais dans les voyages, je faisais une chose qui était certaine, l'adresse de l'hôtel et le nom de l'hôtel pour être sûr que si je me perdais, hein, au Japon, tout ça, je faisais ça. Et je me rappelle, Riverside Hotel, c'était le nom de l'hôtel. Et, oh, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Là, je panique, hein, parce qu'il n'y a plus personne, puisque les mecs sont à la soirée de catch. Donc, il n'y a personne en Corée dans ces pays-là, il y a toujours quelqu'un qui est encore. Mais là, je prends un taxi, je dis Riverside Hotel, please. Hop, hop, il m'amène à l'hôtel. Là, il dit, je suis à la soirée. Mais où est la soirée? Hop, au building. Hop, on prend un taxi, je vais au building. Je n'oublierai jamais, je vois ma photo, 5 mètres de haut, sur 3 mètres de large et un côté l'autre. J'avais fait 12 grosses photos, j'ai même un tablat, je dis, et tout. Et de là, on a dit, ben voilà, ce qui se passe, j'ai pas pu passer. Tu dis, ben pourquoi? Bon. Ah, ben écoute, il fallait aux immigrations, lundi. Oh, merde, moi je vais à New York, hein, le reste de ma vie qui arrive. Lundi matin, 8h du matin, à l'immigration. Je ne retournerai jamais plus là, hein, parce que j'ai signé des papiers, je ne sais pas ce que j'ai signé. Hein. On a fait signer des papiers, tout ça. Tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Le vieux promoteur a porté plainte. Il dit, je travaille sans visa. Bon, c'est ça. Un mec, il dit, voilà, il prend mon passeport, il a requis, tout ça, il prend ça avec le passeport, il dit. Il y a une amende à payer. Bon, il dit, ouais, bah, ok, ouais. 10 000 dollars. Ben, il dit, ben, bah, ouais, c'est bien, ou ils vont en prison. Hein? Quoi? Là, il prend son chèque. Non, du cash qu'il faut, il dit. Quoi? Parce que lui, il est d'Hawaï, le mec. Il est coréen, mais il habite à Hawaï. Non, il faut du cash. Il dit, écoutez, allez chercher l'argent, porter l'argent, ils sont là. Il dit, mais à 4h30, le bus vient, il vient les chercher, il les met en prison. Hein. Bon, là, il est 8h du matin. Il est 8h du matin, là, donc, bon, on attend, bon, midi. Personne. Bah, c'est le lunch. Bon, on nous apporte à manger, etc. Bon, mais on est là tous les 5, là, on attend. Hein, je dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? 1h l'après-midi. 2h l'après-midi. Ah oui, là, toujours, là, je panique, hein. Il dit, ben non, je sais que je ne peux pas, je ne suis pas en forme. Attends, à 4h30, le mec j'amène avec l'argent. Hein. Donc c'est lundi, ça, lundi matin. Alors il me dit, écoutez, vous pouvez partir demain matin ou vous pouvez partir ce soir à 9h. Je dis, tu me mets dans l'avion ce soir, moi je pars ce soir et tu restes à l'aéroport. Tant qu'on ne te dit pas que je suis dans l'avion, tu ne pars pas. Hein. Et là, c'est là aussi, c'est l'avion, il a manqué de tomber aussi, là, soit, mais on rentre dans l'avion, et là, l'aventure, donc je fais Corée du Sud, Japon, les heures d'avion, 3 heures d'attente chaque fois, international, Tokyo, Hawaï, 3 heures d'attente, Hawaï, Los Angeles, 3 heures d'attente, Los Angeles, New York. Attends, à chaque fois. New York, Philadelphia, Allentown. Dans des heures d'avion, c'est 37 heures plus 3 heures à chaque aéroport. J'arrive à Allentown pour ma télévision, en disant le matin, là, avec ma petite valise, que j'avais toujours mes chaussures, mes trucs de catch, ça, c'était quelque chose que je portais tout le temps, mais les valises. Et voilà. Et l'histoire commence là, après le. L'Amérique, c'était au bon moment, à bon endroit, mais jamais été facile. Jamais eu facilité, pop, tu pars. Je peux me battre pour quelque chose là. Je vais presque en prison avant d'aller là. Je vous ai raconté un peu toute ma vie là. Ben, le catch, comme je dis, hein, j'aurais jamais parlé comme je parle aujourd'hui à la radio ou n'importe où, mais il est temps qu'on dise aux gens, écoutez, le catch, c'est un sport qui est très, 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 très dangereux, un sport qui est très difficile à faire. Faut oublier cet aspect qui gagne ou perd, c'est chiqué ou quoi, mais il faut regarder l'autre aspect. Le principal, c'est qu'il était de mon temps, et je crois que je dis toujours, je suis fier de le dire, c'est que j'aimais le catch lui-même. J'ai eu beaucoup d'honneur de certains catcheurs qui disent ben, moi, avec Belomo, tu me mets quand tu veux, je lutte avec. Pourquoi? Parce qu'on se respectait l'un dans l'autre. Donc, quand tu es arrivé dans une équipe, au Mexique, Adonis Romano. Mais là-bas, au Mexique, avec l'altitude, les mecs, ils faisaient exprès des fois, ils te mettaient dans le ring, mais tu donnais la main, ils ne te la prenaient pas. Mais au Mexique, après 3 minutes, si tu n'es pas habitué avec l'altitude, tu passes. Hein. Donc, en général, ils te mettent en match à 6, pour être sûr que tu puisses faire le match au départ. Hein. Ben, comme je dis, l'exemple que j'ai toujours eu, c'était que le metteur en scène de 4, qui était à Broadway, était venu au Madison Square Garden une fois et était fasciné par le catch, il est venu voir. Il se demandait, alors, dans les vestiaires, il était tout excité parce qu'il dit, écoutez, vous avez les gens en paume de votre main, vous pouvez faire ce que vous voulez avec les gens. Il dit, alors, moi je lui ai dit, dans un sens, un catcheur, c'est quoi? Bon, c'est un sportif, il fait de la compétition. Il fait du théâtre, parce que c'est du live. Quand on est dans le ring, c'est comme du théâtre. Mais dans le théâtre, ce qu'il y a, c'est que tu fais une phrase, il ne faut pas que tu la rates pour que les gens rient. Si tu la rates, c'est fini. Dans le cadre, tu dois savoir faire ta prise au moment même. Puis tu es acteur de cinéma, parce que tu fais l'interview, tu la recommences. Et puis le principal, on est cascadeur. Donc on est 5 métiers dans un. Et malheureusement, je peux dire, c'est un des métiers qui est le plus réuni de beaucoup d'art ensemble, mais qui a toujours été maltraité, parce que mais c'est aussi la façon de présenter. L'Américain, il présente tellement bien que, faut dire ce qu'il y a, aujourd'hui, c'est tout l'entour du catch qui est. Hein. Ce qu'il faut dans le ring, c'est comme il y a 10 ans, 20 ans. Hein. C'est tout ce qui est autour, les lumières, le son, tout ça qui est changé. Mais le catch en lui-même, une prise, c'est une prise. Hein. Alors, Batista l'a jamais inventé. Cette prise-là a été faite pendant 100 ans. Simplement, Batista le faisait tout le temps, et on l'appelle Batista. Il s'est fait reconnaître avec ça. Moi, on m'appelle le Pizza Splash. Pizza Splash, c'est quoi? Ben, je cours dans les corps, je me jette en l'air, boum! C'est comme si j'étais une pizza et tombe dessus. Alors on me demande, c'est quoi Pizza Splash? Ben, c'est un splash dans l'eau, mais parce que je suis italien, on a des pizzas, de tout. Et du fait que je faisais 150 kilos, déjà, j'étais arrivé à 160, j'ai 150 kilos quand je luttais, et que je courais dans les corps, que je me jette très haut, et boum! Le public, oh oui, chaque fois faisait « Ouh !» Donc j'ai senti que ça, c'était quelque chose que les gens... Quand vous prenez un mec qui était 15 kilos, 20 kilos moins que moi, et que je faisais ça, les gens... Et quand tu étais méchant, c'était beau parce que tu as fait ça, petit jeu. Mais c'était. C'est ça le catch, hein, je veux dire. Il faut savoir vous. Donc, moi, je commence à faire ça, et puis c'est quoi? Ben, le splash. Ben, pizza splash. Je ne sais même plus comment ça s'est passé, mais maintenant, tout le monde. Maintenant, il y en a un qui m'a dit un jour: envoyez mon autographe, s'il vous plaît, signez-moi en dessous, pizza splash. Ok. Je reçois beaucoup de lettres qu'on me demande de signer des autographes. C'est incroyable, même. Le dernier, c'est carré. C'est dommage, je ne l'ai pas fait plus tôt. Mais le dernier que j'ai fait, c'est le Wild Man, ça veut dire l'homme sauvage. Je m'habille en romain. J'ai un costume romain, là, que j'ai dessiné, moi, mon casque romain. Mais au début, c'était que je faisais vraiment le Wild Man. Je venais en romain avec des gants de boxe. Donc, c'était vraiment. C'était trop époque, c'était l'idée. Mais c'est ça l'idée, le cas. C'était d'interpeller avec quelque chose. Alors j'arrivais avec des gants de boxe, habité en romain. Les gens, là, c'était avec la ECW, que j'étais le premier champion qu'ils n'ont jamais voulu reconnaître. Ben soit, maintenant vous le savez. C'était au Mexique, par Adonis Romano, parce que la photo que j'ai envoyée, ils me voyaient comme un Adonis. Donc ils m'ont appelé Adonis Romano. C'est eux qui ont décidé. À Vancouver, quand je suis arrivé, ils m'ont dit Sal Martino. Parce que Bruno San Martino était là-bas, Salvatore Romano. Mais c'était lui qui a choisi. À Vancouver, c'était Salvatore Bellomo. En Allemagne, c'était Tino Bellomo. Tous ces noms-là. Puis il y a eu le Messala, là, quand je me suis fait en romain, voulait me faire appeler le Centurion Messala, comme dans le film Ben Hur, mais c'était parce que de ce moment-là, physiquement, je ne sais pas, vous ne savez pas, vous regardez les photos, j'y avais vraiment changé pour. Même les magazines ont mis un jour From Beauty to the Beast. Pour un bon mec, devenu une bête, là, parce que j'avais changé tellement de caractère. Une valse, qu'on la danse à Vienne ou on la danse à Paris, c'est la même chose. Eh bien, le catch, c'est la même chose, simplement, c'est le personnage qui change. Mais le catch, la base du catch, moi je dis, le catcheur européen est mieux que l'américain en technique. Ça, c'est la différence, parce qu'ici, en Europe, on apprenait le catch, la lutte. À Paris, c'est beaucoup bagarre. Eh, mais les gens, ils aiment ça, c'est ça, pour qu'on le fait. Hein? Mais au départ, c'est savoir lutter qu'il faut savoir faire. Donc, le catch dans le monde entier est le même, et c'est la façon qu'on le présente. Les Mexicains le présentent en voltige. Les Américains le représentent en histoire. En France, c'est du catch. Mais le catch mexicain a toujours été existé comme il est aujourd'hui. Parce qu'en 75, il faisait déjà tout ce que moi, je vois aujourd'hui, il le faisait déjà là. La différence, c'est qu'au Mexique, il y a l'altitude. Déjà ça, il y a beaucoup qui ne comprennent pas ça, mais c'est l'altitude. Puis le catch mexicain, c'est plutôt... comment je vais dire il faut le vivre pour pouvoir comprendre aux personnes. C'est-à-dire, le public mexicain, il est comme un peu le public américain. Ils savent que le catch, c'est un spectacle. Et les catcheurs mettent du spectacle en plus. Puisque le public le sait, c'est beaucoup de voltige. Hein? Le catch américain avant, c'était plutôt prenez une tête, on frappait. Mais les Mexicains, beaucoup de... leur culture, ben, elle est bonne, parce qu'il y a du monde partout. Les catcheurs mexicains sont en condition, il y a des accidents partout. Il y en a un qui vient de mourir il n'y a pas longtemps. Mais c'était un moment, 6 mois de ma vie incroyable. Les catcheurs, mais là aussi, beaucoup de voyages, hein, faut pas oublier. Hein. Dans ces pays-là, c'est des voyages, hein, des kilomètres. Ça, c'est... On allait de Puebla, on allait de Guadalajara, Monterrey, Mexico City. Mais c'est voyager un peu dans tout. Je dis, dans ma vie, j'ai eu la chance de voyager dans ces pays-là. C'est... Mais bon, maintenant, malheureusement, tout le monde ne peut pas le faire, ce catch-là. Hein. Les gros poids ne peuvent pas aller vraiment au Mexique. Parce qu'il y en a quelques-uns qui ont été, mais c'est vraiment pour faire des matchs différents. Mais pour être un Mexicain, pour lutter au Mexique, si vous avez 95 kilos, 85 kilos, 1m70, c'est formidable, vous êtes une star. Là, il y a aussi la culture, là, c'est par exemple, il faut des matchs cheveux contre cheveux, un masque contre les cheveux. Donc, c'est très populaire pour eux, ça. C'est-à-dire, ils amènent, par exemple, moi, j'étais là, alors après 6 mois, ils disent, voilà, on va faire un match contre celui-là, celui-là, si tu perds, tu coupes tes cheveux, si lui perd, on enlève le masque. Et moi, j'ai lutté contre deux Montréalais. On a fait un match à 4. On m'a donné 1000 dollars pour me raser, donc je ne vais pas me plaindre. Ils ont repoussé.
Andy. Ça veut dire... Frappe-moi. Frappe-moi, mais pas trop fort. Justement. Frappe-moi là, dans l'épaule. Frappe-moi. Voilà. Refrappe-moi. Oh ! Ça, c'est ventre. Ça, c'est les jeunes n'ont pas ça. Ils ont perdu un peu de ça. Et maintenant, si tu regardes le catch aujourd'hui, c'est... moi, je vois tout de suite, c'est tout préparé. Ils ont leur tête, oh, je dois faire ça. Alors là, ils se trompent, bon, c'est fini. Nous, dans notre temps, on arrivait dans le ring, t'étais gentil ou méchant, on ne savait pas, des fois. Alors, quand j'arrive à Hawaï, bien entendu, j'étais quoi? J'étais méchant, puisque je luttais en hawaïen. Et là, tu dois te préparer à ça. Alors, quand tu vas là, tu dois vendre en méchant ou vendre en bourre. C'est savoir... Nous dansons dans le ring. Le public, c'est notre essence. Ils vont nous dire quoi faire. Et nous aussi. Pour les faire content, faire fâcher. Il y a une dame qui m'a dit, mon fils, il fait ça, il peut aller à la WWE. Je dis oui. Oui? Non. Vous dites oui, vous dites non. S'il s'entraîne, peut-être. S'il ne s'entraîne pas, non. Ici, ils ont le potentiel, ceux qui mettent dedans. Hein. C'est comme dans tous les sports. Hein. Nous avons un Français qui a été aux États-Unis, à Archer, hein, parce que c'est européen. Pourtant, le garçon, il est bien. Hein. Mais en Amérique, tu ne sais pas parler, tu n'es pas bien à la TV. C'est tout. C'est pas seulement la lutte qui compte, c'est l'attitude. Il y a beaucoup de choses qui veulent là-bas maintenant. C'est... Moi, chérie, si je vais aujourd'hui en Amérique, même qu'il y a 10, il y a 20 ans, je ne passe pas. Hein. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Ils ont 180 élèves qui attendent pour passer à la WWE. Et les entraînements, c'est pas ça. Hein. J'ai demandé 500, j'ai arrêté à 300 parce qu'ils étaient fatigués. Là-bas, c'est 2000 squats s'il ne faut pas. Parce que Dave Taylor, il va entraîner, il m'a dit ça va toi. Et quand ils vont faire des poids, c'est pas haltères. Il faut avoir des pneus, il faut faire des trucs. Et si Vince McMahon, il appelle au matin, Dave, bras de volée. La bras de volée, c'est. Toute la matinée, il doit faire ça. Mais lui, il a les caméras, lui. S'il voit qu'il fait. Dehors. Prends l'argent, on fait ce qu'on veut. Hein. Ils avaient prévu 3 millions de dollars pour l'école, là, hein, l'NXT. Mais l'NXT, elle fait plus. Il faut faire de l'argent avec les écoles. Alors, c'est bon. Le problème compatible, le sport, c'est pas un.
Vous avez écouté Profession Catchard, une production Radio Rectangle conçue par Jimmy Pantera, Marc Wathieu et Benjamin Scos. La réalisation du documentaire est de Benjamin Scos, ainsi que le montage et la production exécutive. La prise de son des ambiances est réalisée par Guillaume Abgral. La prise son studio est de Sabino Orsini, Marc Maguin et Jean-François Hustin. Le mixage final du documentaire est réalisé par Jean-François Hustin. La musique originale est de Benjamin Scos et Christophe Séry. Elle est mixée par Gilles Martin. La musique additionnelle est de Jacques Duval, Sabino Orsini, Golden Boy, Justin Patton et Man from Uranus. Merci à Salvatore Bellomo et tous les élèves de la Belgium Wrestling School. Vive le catch en Californie. Production Radio Rectangle et Freaksville Publishing de 2018 avec l'aide du Fonds d'aide radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.